Radio Barque, notre 32e de cette saison, a invité Alain Perea. Alors Alain Perea, maintenant, on a déjà parlé parce que vous êtes déjà venu plusieurs fois à ce micro, mais là maintenant c'est clair, c'est net, vous avez l'investiture, vous battez la campagne, vous êtes en marche à tous les sens du terme, et donc vous allez pouvoir nous dire ce qu'à un moment vous ne pouviez pas trop dire, quel est le programme de Monsieur Macron et surtout d'un futur député de Monsieur Macron si vous êtes élu.
D'abord, bonjour à tous. Merci de votre invitation. Et je ne vais pas redire ce qui a été dit brillamment par Michel Santo, mais je voudrais insister sur deux choses. La première, c'est un député s'inscrit dans la ligne droite du mouvement qu'il représente sur son territoire. Et donc, et d'ailleurs récemment, le président de la République nous a réunis, les candidats d'En Marche nous a réunis à Paris, et il a bien insisté sur le fait que nous serions sur les territoires, nous serions y compris à Paris, pour être dans la logique qui est la logique du contrat avec la nation qu'Emmanuel Macron a proposé et qui a in fine été retenu par une majorité de Français. Donc nous sommes véritablement dans cette logique-là. Je dois vous le dire, relativement atterré de voir un certain nombre de candidats, mais aussi de personnels politiques, qui nous interpellent sur quel est le programme concrètement, et de voir certains candidats qui se promènent en disant « moi je vais faire un musée » ou « j'ai 25 points pour la Narbonnaise ». On ne peut pas fonctionner comme ça. C'est à la fois être sur une logique qui est une logique contraire à l'organisation de notre République, mais surtout c'est mentir aux Français. Et les Français ne veulent plus qu'on leur mente.
Mais c'est jouer aussi sur l'ignorance des électeurs, peut-être.
Je crois que c'est plutôt essayer de faire de la politique comme elle se faisait avant, en faisant des fausses promesses, en étant sur des engagements qu'ensuite on explique qu'on ne peut pas les tenir. Et donc là, on s'engage sur des choses et après on vous dit « mais attendez, c'est pas ma faute, c'est la faute des autres ». Donc avec le mouvement En Marche, avec Emmanuel Macron, nous sommes sur une vraie logique. Et pour répondre concrètement à votre question, je voudrais juste dire que nous avons une colonne vertébrale, et cette colonne vertébrale, elle s'articule autour de quatre axes. Le premier, je l'ai déjà dit, c'est le contrat avec la nation. Ce sont nos 10 engagements nationaux. Les auditeurs le connaissent, Emmanuel Macron les a présentés dans son programme. Le deuxième point important, c'est mes priorités à moi pour la Narbonnaise, c'est-à-dire les actions sur lesquelles je vais plus particulièrement me battre. Et c'est peut-être cela le fond de votre question. Je les cite rapidement. D'abord, c'est inventer un modèle économique du 21e siècle pour la Narbonnaise. C'est affirmer notre fierté viticole. C'est aussi revenir sur un lien homme-nature et notamment travailler sur le bien-vivre de notre territoire. Enfin, c'est inscrire notre territoire de la Narbonnaise dans une véritable culture d'éducation populaire que nous avons trop perdue. Et enfin, je veux travailler sur tous les grands projets et tous les grands thèmes qui seront importants sur notre territoire. Après, il y a les urgences. Actuellement, il y a le dossier Areva, il y a la crise viticole. Mais on ne peut pas, comme le font certains, baser uniquement leur campagne sur ces urgences-là, comme s'ils n'avaient aucune vision de l'avenir. Et donc, on doit travailler sur ces urgences-là, et le rôle d'un député, c'est d'être proche des personnalités, proche des habitants, mais pas uniquement fonder son action sur des urgences qui sont des urgences du moment. Et enfin, le quatrième point qui va faire, ce que je serai en tant que député, c'est de travailler au contact des habitants, au contact de leurs représentants, dans une logique de concertation. Si vous saviez le nombre de personnes qui me disent tous les jours que les élus, ils les ont vus il y a 5 ans et qu'ils les revoient que maintenant. Ça ne peut plus durer.
Ça, c'est un refrain sempiternel.
Exactement. Donc cela ne peut plus durer. Et aujourd'hui, à votre micro, et dans 5 ans, on pourra le ressortir, je m'engage à ce qu'on ne soit plus dans ce fonctionnement-là.
Alain Perea, la ligne TGV, ou plutôt le tronçon manquant, est-ce que pour vous, ça fait partie des urgences?
Alors, non seulement ça fait partie des urgences, mais je voudrais quand même rappeler que au mois de octobre ou septembre de l'année dernière, le Sénat a voté le gel de tous les travaux sur les lignes TGV en France, sans que le représentant ici de notre territoire ne s'en émeuve. sans que le représentant LR, qui est majoritaire au niveau du Sénat, ne s'en émeuve non plus. Donc, moi, je veux bien que les uns et les autres nous expliquent plein de choses. Moi, je vois les faits. Et les faits, c'est que dès 2005, alors que j'étais sur des fonctions plus administratives, nous nous sommes battus pour avoir cette gare TGV. J'ai été en contact permanent avec le responsable de la ligne TGV, Monsieur Parent, afin que nous ayons cette gare TGV. Et je continuerai à me battre parce qu'il me paraît important, un, que ce chaînon manquant soit finalisé et que nous ayons à Montredon une grande gare TGV qui va être un des investissements majeurs des années à venir pour notre territoire, tout comme le port de Port-la-Nouvelle.
Donc on peut penser que si vous êtes élu, ça va être votre, je dirais presque votre obsession. Michel, une remarque ?
Oui, et on voit très bien sur ce genre de dossier comment l'action sur le terrain est aussi dépendante et joue sur les actions au plan national, parce que toutes ces questions-là sont liées tout simplement au vote de la loi de finances de l'année qui vient, en fait, des années futures. C'est-à-dire que on sait très bien que le réseau ferré de France a 45 milliards d'endettement, donc ils sont considérables, qu'on est dans une situation financière qui n'est pas extraordinaire sur le plan des finances publiques nationales, et que donc tout ça, ça s'est soumis à des arbitrages. Et oui. Les arbitrages, au final du final, c'est la loi de finances, donc c'est le député et la majorité des députés qui tranche la question.
Oui, oui, mais par
exemple. Ça pour dire qu'effectivement, joindre le local, en fait, et le national pour un député, c'est prendre en compte ces deux dimensions-là, effectivement.
Et donc il est important d'avoir une action qui est une action cérébrée, d'avoir une colonne vertébrale qui guide notre action. On ne peut pas, dès qu'il y a le moindre incident, aller sauter sur l'occasion pour faire des photos, pour montrer qu'on est sur le terrain et, in fine, ne jamais régler les problèmes. Vous avez utilisé le mot obsession. Je pense que on ne peut pas avoir des obsessions quand on souhaite être député. Il faut que l'on ait de la force, il faut que l'on ait de l'envie, il faut que l'on ait une vision. Mais je pense que si on est trop obsédé par un certain nombre de dossiers, on finit par perdre un petit peu de clairvoyance. Et je voudrais rajouter sur ces grands dossiers qui vont structurer notre territoire, on ne pourra pas les faire si on ne les fait pas avec l'Europe. Et moi, je vois bien un certain nombre de candidats, mais aussi de partis politiques, qui ne travaillent pas avec l'Europe, qui veulent sortir de l'Europe. Eh bien, il faut qu'ils nous expliquent comment ils vont continuer à faire avancer notre territoire, à moins que leur seule ambition pour notre territoire soit de faire un musée. Mais nous, moi, je ne défends pas l'idée d'avoir un musée sur notre territoire. Ce que je souhaite, c'est que notre territoire se développe, que notre territoire avance, et nous devons le faire dans une logique, en travaillant en étroite collaboration avec les collectivités de ce territoire, les mairies, la communauté d'agglomération, ce qui n'a pas été fait sur ces 5 dernières années. Nous devons travailler avec les structures régionales et départementales, l'État et l'Europe. C'est le contrat que propose Emmanuel Macron, vous le savez, il l'a défendu, et c'est ce que je souhaiterais défendre dès que je serai élu.
Oui, mais alors Michel Santo, vous direz que c'est pas le travail d'un député d'aller voir toutes les collectivités locales.
Non, mais en même temps, Jean-Claude, je voudrais la relation là aussi, en fait, hein, l'Europe. Bon, l'Europe, c'est, on est dans une région, en fait, bon, je vais être un peu caricatural, hein, qui, au plan économique, est sous-développée et qui est constamment dans une logique, en tout cas pour certains grands élus, à la fois de critiquer effectivement les grands redistributeurs d'argent public, l'État, en fait, et l'Europe, et en même temps, on tend la CBI pour avoir des financements. Je rappelle quand même à nos auditeurs, bon, il a pas fait à l'Imperia, moi je le fais, que le Murena, en fait, le Murena, oui. Là, hein, oui, c'est, bon, est financé par l'Europe.
Oui, entre autres, voilà.
Que l'INRA, le laboratoire de l'INRA, quand j'en ai imaginé effectivement l'ingénierie et financement, il a été financé par l'Europe.
Voilà, donc.
L'ALDE technologie, elle a été financée par l'Europe. 50% des formations continues, gérées aujourd'hui par les Greta, sont financées
voilà,
par l'Europe.
Voilà, donc Alain Perea a raison finalement de souligner que le rôle fondamental aujourd'hui de l'Europe dans le développement économique.
Oui, c'est majeur dans tous les thèmes, y compris le thème de la viticulture. Alors c'est un dossier complexe.
Alors
aujourd'hui.
Oui, la viticulture dont on sait aujourd'hui que ça grince un petit peu des dents.
Alors, donc je voudrais quand même terminer cette question de l'Europe. C'est un dossier majeur. Et moi, j'entends certains aussi qui veulent que l'on sorte de l'Europe, mais c'est les mêmes qui se sont opposés à ce que nous créions une synergie autour de l'INRA. Je citerai pas les noms, mais vous les retrouverez quand si vous êtes intéressé sur ces dossiers. Pour revenir aussi sur ce que vous venez de dire, l'idée que je porte en qualité de député, c'est pas de faire le tour de toutes les institutions pour tendre la main. L'idée, c'est de participer à une formidable synergie. Sur notre territoire, nous avons de l'énergie, nous avons des potentiels, nous avons des envies, et nous devons tous aller dans le même sens. C'est le fondement même de la stratégie d'Emmanuel Macron. C'est d'arrêter de couper les uns et les autres, de s'opposer, mais au contraire de rassembler. Et ma candidature, elle se porte dans cette notion-là de rassemblement. En début d'émission, nous avons parlé des petits partis. Ils montrent, au-delà des problèmes de financement qui ont été très brillamment exposés, ils montrent combien nous sommes aujourd'hui dans des partis qui sont complètement déboussolés, complètement éclatés. Les seuls qui portent une stratégie de rassemblement large, sans parti pris et sans approche partisane, c'est le mouvement d'Emmanuel Macron. Et ici, sur ce territoire, c'est ce que je veux porter. Un rassemblement qui va nous permettre enfin de décoller et de donner à la Narbonnaise cette dynamique dont elle a tant besoin.
Alors, quelle est, une petite parenthèse, quel est votre état d'esprit aujourd'hui à l'Impéria, quand on sait que ça fait une bonne année, je crois, que vous aviez exprimé, que vous croyiez à l'époque à M. Macron. Donc, aujourd'hui, les choses se concrétisent. Comment ça se passe dans votre tête? Vous dites, ça y est, ou j'y ai toujours cru, ou comment? Qu'est-ce que vous dites?
Je suis très, très heureux, pas pour moi, mais pour la Narbonnaise. Parce que j'étais venu ici le 19 novembre, les auditeurs pourront retrouver l'émission en podcast, et j'avais dit, alors qu'Emmanuel Macron était à 14% dans les sondages, j'avais dit, Emmanuel Macron va gagner, et deux, j'avais lancé un appel aux forces progressistes de ce territoire pour se réunir et pour faire que la Narbonnaise soit à la fois dans une logique d'avant-garde sur ce qui allait se passer au niveau national et soit dans une véritable dynamique. En face de moi, j'ai eu des personnes qui n'ont pas de vision, ni pour le territoire, ni de vision politique. Ces personnes-là ont préféré s'enquister dans des logiques partisanes. Mais, en lieu et place de ces personnes-là qui n'ont pas souhaité s'engager, tous les jours, et c'est pour ça que je suis heureux, des personnes viennent se rallier à la dynamique du mouvement En Marche, des personnes de la société civile, des personnes qui ont déjà fait un peu de politique ou qui en ont fait beaucoup. Et toutes ces personnes-là viennent derrière ma candidature, mais ça pourrait être notre candidat, je suis sûr que nous serions dans la même logique. Nous sommes là pour faire avancer ce territoire. Nous sommes là pour faire éclore toute cette énergie qui est là. Et donc, je suis très heureux parce que je suis intimement convaincu que les Narbonnaises et les Narbonnais que je rencontre au quotidien, qu'ils soient des villages, qu'ils soient de cette commune centre, tous me disent, nous voulons enfin que la Narbonnaise décolle. Et donc, je suis très heureux parce que je me suis beaucoup battu avec des amis pour en arriver là. Nous nous sommes beaucoup engagés et je suis sûr que dans les jours qui viennent, nous aurons des résultats qui seront très favorables, encore une fois, pour la Narbonnaise.
Alors, je prends note à l'Impéria que si vous êtes élu député, vous continuerez à venir régulièrement à ce micro, ne serait-ce que pour informer nos auditeurs sur votre action.
Je viendrai chaque fois que vous m'inviterez, comme je l'ai toujours fait, sans tabou, en parlant librement. Je suis né à Narbonne, j'ai toujours vécu à Narbonne. Et encore récemment, je faisais le tour des commerçants et beaucoup me disaient « mais on vous connaît, il n'y a pas besoin de venir vous présenter ». Mais je tiens quand même à garder ce contact, je tiens à garder ce relais, parce que je crois que quel que soit le niveau auquel on est élu, il ne faut jamais oublier que notre force, nous la puisons dans le contact avec les personnes. Et donc, quelles que soient les voies de communication, qu'elles soient comme ici à la radio ou par les réseaux sociaux ou dans un contact direct, on se doit de rester au contact très très proche de toutes les personnes qui font ce territoire, qui le font vivre, qu'ils soient électeurs ou non électeurs. Parce qu'il y a aussi des personnes qui ne peuvent pas voter pour des raisons réglementaires, mais nous devons aussi tenir compte de leur avis.
Oui, n'oublie jamais, quitte à faire roi, pour reprendre une citation historique très célèbre.
C'est ce que nous appelons en management le syndrome d'Hugues Capet. Et donc, c'est à lui qu'on lui avait oublié, on lui avait dit, n'oublie pas, quitte à faire roi. Je voudrais peut-être, si j'ai le temps, parler un petit peu de la viticulture, puisque vous m'avez posé la question.
Oui, bien sûr, surtout en ce moment, avec les actions qui nous ramènent pas mal d'années et de décennies en arrière.
Oui, on a vidé
Il n'y a pas très longtemps.
Oui, oui, justement. Alors, Alain Perea.
Alors, en quelques mots, parce que c'est un dossier complexe. Je voudrais d'abord rappeler que nos vignerons ont fait depuis maintenant 30 ou 40 ans de nombreux efforts en essayant d'être dans une logique qui était une logique d'améliorer les produits, une logique aussi d'amélioration environnementale des pratiques. Je suis aujourd'hui vraiment choqué, voire même indigné, de voir un certain nombre de représentants politiques qui sont aux affaires depuis plus de 40 ans, qui, lorsqu'il y a des manifestations, se mettent au premier rang pour applaudir en disant que les viticulteurs ont raison de rouspéter, comme si eux n'étaient responsables de rien. C'est indigne. Ce que je souhaite faire, c'est véritablement travailler avec toute la filière autour de trois axes. Le premier, il faut que l'on revoie complètement le modèle viticole, le modèle économique viticole. Nous devons travailler avec un axe fort qui a été à plusieurs fois reprise par Emmanuel Macron. Le salaire des viticulteurs ne doit pas être la variable d'ajustement. Il l'a dit, il l'a redit et nous travaillerons là-dessus. Le deuxième axe qui est très important pour moi, c'est de revoir le modèle sociétal autour de la viticulture. Nous travaillons encore dans un monde qui a totalement changé avec des vignerons et des viticulteurs qui ne sont pas pris dans leur globalité. On ne traite uniquement que la question du salaire et du prix à l'hecto. Nous devons revoir tout ça. Et la troisième chose qui est majeure, c'est de faire de notre viticulture l'axe majeur de notre territoire en termes d'identité. Trop longtemps, trop souvent, nous avons pris les viticulteurs et les vignerons comme étant juste une petite économie de notre territoire. Nous devons au contraire la remettre en avant et travailler profondément avec eux sur ce qui fonde ce que nous sommes aujourd'hui. Et je suis intimement convaincu qu'en développant ces trois axes, nous aurons à court terme des résultats qui seront des résultats bien plus positifs que ceux qui ont été réalisés par d'autres depuis plus de 40 ans.
Alors Alain Perea, on conclura peut-être là-dessus. Vous avez parlé de la viticulture, vous dites ce que vous souhaitez, mais vous avez aussi parlé de l'action de l'Europe. Or, on sait que l'action de l'Europe est parfois incohérente, et aujourd'hui, on se plaint, les viticulteurs se plaignent d'importation de vin espagnol, puis italien, ce qui nous ramène 30 ou 40 ans en arrière. Alors là, c'est l'Europe quand même qui fonctionne pas bien ou qui dysfonctionne.
Alors d'abord, je pourrais rappeler les chiffres importants qui sont versés par l'Europe dans les filières. 1 milliard d'euros sur l'agriculture, 330 millions sur plus spécifiquement la filière viticole. Mais Emmanuel Macron l'a dit, voilà. Nos viticulteurs doivent être fiers du travail qu'ils font. Et donc, il faut maintenant qu'ils arrivent à vivre, de leur travail et non pas de subventions. Et donc, par rapport à ce dont vous me parlez, aujourd'hui, chez nous, nous sortons l'hecto à environ 90 euros à 120 euros. Les Espagnols arrivent à importer à 30 euros l'hecto. Et donc, ce n'est pas en se faisant la guerre que nous allons nous en sortir. C'est au contraire en retravaillant avec les Espagnols, avec les Italiens, que nous allons réussir à trouver une nouvelle stratégie économique. Et donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est pas en nous opposant les uns et les autres, comme veulent le faire certaines parties, c'est pas en allant au chevet de la vigne dès qu'elle a été gelée que nous allons nous en sortir. C'est en prenant la main de nos viticulteurs et en allant avec eux travailler au niveau européen, au niveau national, des stratégies économiques, des stratégies sociales, afin d'inventer un modèle économique qui fait que le segment de marché très court dans lequel nous sommes trouve toute sa place dans un modèle économique qui n'est pas européen, qui est mondial. Et donc, il faut arrêter d'avoir une vision qui est une vision à court terme, une vision à la parcelle. Il faut que nous ayons un personnel politique et accompagné derrière avec des vignerons et des viticulteurs de qualité que je connais, avec qui nous allons pouvoir travailler et avoir une vision beaucoup plus large. C'est ce que propose Emmanuel Macron, c'est ce que je souhaite faire pour notre viticulteur ici, pour notre viticulture ici dans notre territoire. Et vous le savez, parce que je l'ai déjà fait sur d'autres dossiers, lorsque je rentre sur le terrain, c'est pour gagner le match. Et je le gagnerai avec des viticulteurs de notre territoire, dont certains, j'ai déjà partagé beaucoup de combats, et nous arriverons... à nos fins, j'en suis intimement convaincu, parce qu'ils le méritent, mais aussi parce que la viticulture, je le répète et je le répéterai pendant 5 ans, la viticulture, c'est notre territoire, c'est nous.
Pour être clair, est-ce que, si j'ai bien compris ce que vous souhaitez, d'un côté du 90 euros à l'hecto et de l'autre côté du 30 euros à l'hecto, ce sont des réalités qui doivent pouvoir continuer à subsister dans un marché équilibré? Est-ce que c'est ça?
Il faut avoir un modèle économique qui soit rééquilibré.
Et qui tienne compte de ces réalités.
Voilà. Et on peut faire comme si cela n'existait pas. Demain, c'est d'autres pays, je ne citerai pas de nom, c'est d'autres pays qui importeront peut-être à 15 euros. Et donc, comment ferons-nous? Nous coulerons des bateaux dans la Méditerranée parce qu'ils importent du vin. Donc, ce que je souhaite faire, le combat actuel est légitime. Parce que nos vignerons souhaitent montrer qu'ils sont en difficulté. Et donc ce combat est actuel. Mais ce qu'il faut, véritablement, c'est retravailler un modèle économique beaucoup plus large. Nous avons mis, je vais employer cette expression, nous avons mis nos œufs dans le même panier. Et donc on se doit d'avoir une logique qui est une logique beaucoup plus large.
Voilà. Eh bien, écoutez, merci Alain Perea. On vous souhaite de continuer d'avoir cette forme et cette pêche pendant votre campagne, puisque apparemment vous l'avez. Et vous êtes venu nous parler de votre candidature, de votre engagement maintenant assez lointain sur l'effet Macron. Je vous remercie. Nous continuerons encore une fois, la prochaine fois, de parler d'élections. Ça sera la dernière. Nous recevrons alors un de vos concurrents. Pas les tout petits partis, mais Monsieur Silbermann, qui est sur la France insoumise, voilà. Merci en tout cas, et à la semaine prochaine.
Merci beaucoup, merci.